Il y a bien longtemps, ma grand-mère me parlait de l'ancien tram et de participer aujourd'hui, ce week-end, à l'inauguration de ce vieux tram, le fameux Péril jaune dont vous avez sans doute entendu parler. Eh bien, quelque part, j'ai ma grand-mère en tête et je suis donc d'autant plus ému. Bien, est-ce que vous savez à quelle date le premier tram a été inauguré? Est-ce que vous le savez?
1898.
Très bien, le 11 juin exactement 1898, c'est-à-dire il y a exactement 114 ans et 12 jours que le premier tram était inauguré. Donc vous voyez, ça commence à dater. Ce premier tram a fini sa vie relativement tristement, puisque la guerre, comme vous le savez, a détruit une partie du réseau, détruit la ville bien sûr, et on peut dire qu'il disparaît donc définitivement en 1944. Alors ici, nous sommes donc dans le quartier de l'Annexion. Alors comme son nom l'indique, ce quartier a été annexé à Brest au mois de juin 1861. Alors pour quelle raison? Parce que Brest, comme vous le savez, s'achevait à Brest même. Alors est-ce que les Brestois savent? La plupart des Brestois connaissent l'expression, et parfois même on le dit pour d'autres villes quand on quitte Brest. Récemment, un ami me disait « Mais pourquoi tu dis Rennes même ?» Alors c'est vrai que...
Par habitude.
Et il ne comprenait pas pourquoi je disais Rennes même. Alors c'est vrai que les Brestois utilisent souvent cette expression sans savoir l'origine de cette expression. Il faut savoir donc que la ville a été enserrée dans ses remparts jusqu'en 1944 et qu'on entrait dans Brest même au niveau du monument aux morts, au niveau de la poste aujourd'hui. D'accord ? Donc quand vous quittiez Brest même, quand vous quittiez les remparts, quand vous quittiez à peu près donc au niveau de la place de la Liberté, on était dans le quartier de l'Annexion. Je pense que l'expression Brest même doit d'ailleurs venir de 1861, date à laquelle le quartier que vous voyez ici, donc qui s'étend du bas de la rue Jean Jaurès jusqu'à la rue du Télégraphe, c'est-à-dire à peu près 150 mètres, 200 mètres au-dessus de l'octroi, eh bien, a été intégré à la ville. Ce quartier appartenait bien sûr à Lambézélec. Pauvre Lambézélec, une des communes les plus étendues de France, qui, à cause de la proximité de Brest, s'est vue peu à peu grignoter. Pensez par exemple que Brest, à l'origine de Brest, Brest s'arrête au niveau du château. Et donc, le premier quartier au pied du château, qui s'appelle le quartier des Sept Saints, a déjà été pris sur la commune de Lambézélec. Donc, vous voyez, ensuite, quand Vauban construit les remparts et le nouveau tracé de la ville, c'est aussi aux dépens de Lambézélec d'un côté et aux dépens de Saint-Pierre-Quilbignon de l'autre. Donc, jusqu'en 1690 environ, jusqu'au tracé des remparts, eh bien la ville ne s'étend plus. Bien, donc ici nous sommes au niveau de l'octroi. Jusqu'en 1948, les octrois ont existé jusqu'en 1948. Donc l'octroi, le bâtiment de l'octroi se trouvait exactement à l'emplacement de cette petite place là, vous voyez ? Donc, quand Brest annexe ce quartier, il faut lui donner un nom. On va l'appeler Saint-Martin, du nom donc du Saint-Patron qui est choisi pour l'église de Saint-Martin. Puis, quelques années plus tard, dans les années 1890, le quartier Saint-Michel. Tout ce quartier, donc, est pris à Lambézélec. C'est très intéressant pour Brest. Pour quelle raison c'est très intéressant pour Brest? D'abord, parce que Brest est à l'étroit dans ses remparts. Depuis la fin du XVIIIe siècle, la ville a commencé à s'étendre au-delà des remparts, autour de la place de la Liberté et en bas de la rue Jean Jaurès aujourd'hui. Et surtout... Sous le Second Empire, Brest a connu quand même une des périodes les plus florissantes de son histoire. Pensez que c'est dans les années 1860 que le port de commerce est créé, que le port de commerce sort de la Pimpelle et que le train arrive à Brest. La ligne Paris-Brest arrive donc à Brest en 1865. Tout ça coûte cher à la municipalité. Or, ce quartier, vous pensez bien, représentait de l'argent pour la commune de Lambézélec. Il y avait quand même 6000 habitants qui déjà vivaient à l'extérieur de l'enceinte. Et tout ça, donc, c'était des entreprises, c'était des boutiquiers, c'était des gens qui, par leurs impôts, pouvaient rapporter de l'argent à Brest. Donc, on discute longtemps entre Lambé et Brest. Lambé finit, hélas, par capituler. Enfin, hélas pour la mairie de Lambé, bien sûr. Et à ce moment-là, tout ce quartier donc est intégré jusqu'à l'octroi. Donc ici, comme dans tous les octrois de France et de Navarre, les diligences dans un premier temps s'arrêtaient et payaient un droit sur les denrées, la plupart des denrées qui rentraient dans la ville, ce qui représentait un impôt. Donc vous voyez, Brest s'enrichit de boutiques, Brest s'enrichit d'entreprises qui permettent de financer eh bien, ce qui a le nouveau port de commerce, l'arrivée du train, le pont impérial qui a lui ouvert aussi en 1861 entre la rive droite et la rive gauche. Alors ici, vous voyez là où circule le train, c'est l'ancien grand chemin. Vous aurez remarqué, il a quand même une particularité, on le voit bien ici, c'est tout droit, vous voyez, ça file en direction de Guy Pava et de Landerneau. Ce grand chemin a été réellement ouvert sous le cardinal de Fleury. Le cardinal de Fleury, c'était un ministre de Louis XV, car il considérait que les courriers et les diligences qu'il empruntait, eh bien, se rompaient leurs roues, les chevaux se blessaient. C'est le cardinal de Fleury, donc ministre de Louis XV, qui, en 1755, ouvre véritablement à la route ce grand chemin, d'où, vous voyez, sont tracés comme les anciennes routes royales, extrêmement droits. Hein. Pour quelle raison on l'a appelé le grand chemin? Parce qu'il fait suite au vieux chemin. Le vieux chemin, c'est la rue Branda aujourd'hui. La première route, quand on quittait Brest, quand on sortait des fortifications de Brest même, on empruntait initialement le vieux chemin qui avait ouvert en 1693 et qui ensuite s'est appelé le chemin du cimetière. Pour quelle raison? Exactement. Hein, en 1794, on a décidé d'ouvrir le cimetière de Saint-Martin. Des lettres patentes du roi, dans les années 1780, ont interdit tout cimetière à Brest. Or, n'oubliez pas que les deux cimetières de Brest se trouvaient intramuros. Le premier cimetière se trouvait à peu près aujourd'hui derrière la poste, au niveau de la rue Algésiras, et le second cimetière se trouvait à côté de l'église Saint-Sauveur. À droite de l'église Saint-Sauveur, vous avez une place, là, le cimetière était là. Donc, on déménage les tombes, on va déménager les sépultures, et c'est en 1794 que le cimetière est acheté. Mais il est sur la commune de Lambézélec à l'époque où il est acheté. Il sera peu à peu agrandi, peu à peu loti, et il deviendra ce qu'il est aujourd'hui. L'autre cimetière vers lequel on va se diriger tout à l'heure, lui, est acheté en 1866. On ne va pas demander son avis à Lambé. N'oubliez pas, je crois que nous autres qui nous promenons aujourd'hui dans cette ville, elles forment une unité. Mais il ne faut pas oublier qu'on était à Lambé, à peine on dépassait ici. Même s'il y avait des habitations, on était à Lambézélec. Eh bien, sans demander son avis au maire de Lambé, on va, Brest s'approprie le cimetière de Carfotras en 1866. Si vous levez les yeux, vous voyez donc que la plupart des maisons, la plupart des vieux immeubles, bon, certains immeubles sont bien sûr des immeubles de la reconstruction, ce que vous avez ici à peu près devant vous doivent être des immeubles des années 50, ici aussi de part et d'autre, vous voyez, de l'octroi, mais regardez, si on descend un peu, on voit qu'on a des immeubles qui sont plus anciens. Ils peuvent dater des années 1880, 1870 pour les plus anciens, date à laquelle le quartier a bien sûr été construit. Il faut rappeler que pendant très longtemps, le génie militaire, que les Brestois appelaient d'ailleurs de manière ironique le génie malfaisant, eh bien, il faut rappeler que pendant très longtemps, on ne pouvait, en dehors des murs, et à cause du fort des fédérés, qui se trouvait, voyez, à peu près à l'emplacement aujourd'hui de l'hôpital Morvan, et du fort de Kerroriou, qui se trouve à peu près aujourd'hui à l'emplacement du foyer du marin, il y avait là donc des zones de servitude. On a oublié ça, hein, on construit aujourd'hui à peu près où l'on veut. Eh bien, il y avait des zones de servitude, et ces zones de servitude empêchaient, bien sûr, toute forme de construction. Ce qui fait, c'est la raison pour laquelle, par exemple, c'est la rue de Paris, hein, l'ancien grand chemin, vous voyez, qui s'est ensuite appelé rue de Paris, puis rue Jean Jaurès un mois après la mort de Jean Jaurès, eh bien, que ça s'est construit. Un petit peu du côté de l'église Saint-Martin, qui est ouvert au culte en 1881, autour de la place Guérin, vous aurez vu, et le tracé est très orthogonal. Si, quand vous vous promenez dans ces quartiers, si vous êtes de ces quartiers, bien sûr, vous les connaissez peut-être mieux que moi, mais vous voyez, c'est orthogonal. D'un côté de la rue de Paris, et de l'autre côté de la rue de Paris, eh bien, vous avez le quartier Sancerre, qui va donner donc l'église Saint-Michel, et puis une place Sancerre avec une école. École Guérin d'un côté, école Sancerre de l'autre. Et peu à peu, tout ça se bâtit. Mais imaginez, par exemple, que ce n'est qu'en 1883 que la rue Victor Hugo est ouverte, parce que le génie interdisait toute construction, zone de servitude, à cause du fort des fédérés qui se trouvait à peu près à l'emplacement du foyer du marin. La rue de la gare, qui deviendra le boulevard Gambetta, n'est autorisée aussi qu'en 1883. Donc vous voyez, ça fait à peine plus de 100 ans. C'est pour ça, quand on lève les yeux aujourd'hui à Brest, On a un patrimoine intéressant, hein. Bien sûr que Barbara, on peut toujours pleurer sur notre ville détruite, notre vieux Brest, mais on a quand même un patrimoine intéressant. Mais il faut pas oublier qu'il ne remonte au maximum que jusqu'à 150 ans, pas beaucoup plus. D'accord ? Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette rue. Alors, peut-être que vous, si vous avez déjà suivi l'itinéraire, on vous l'a dit, mais je vais le rappeler parce que ça me fait plaisir. Jean Jaurès est venu à Brest en 1900 pour soutenir la création d'un, pour soutenir la création du premier syndicat à l'Arsenal, syndicat des métaux. Puis il est revenu aussi à Brest en 1909. Et vous pensez bien que le malheureux, assassiné à la fin du mois de juillet 14, hein, quelques 3 ou 4 jours avant la déclaration de guerre, eh bien la municipalité brestoise, le 25 août, donne son nom à cette grande rue de Brest, la rue de Paris devient donc la rue Jean Jaurès. Mais comme jusqu'en 1945, date à laquelle Lambézélec est définitivement dévoré par Brest, jusqu'en 1945, vous voyez, la rue Jean Jaurès s'arrêtait un petit peu plus haut là au niveau de l'Octroi et elle devenait la rue Anatole France. Parce que, ben, n'oubliez pas que c'était une rue de Lambé. Et donc, quand en octobre 1945, les trois communes périphériques sont intégrées, Saint-Marc, Saint-Pierre et Lambé, eh bien, la rue Jean Jaurès est prolongée jusqu'à la place de Strasbourg. D'accord ? Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce secteur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne sais plus. On va avancer et ça, ma mémoire me reviendra.
Un coup de feu pour les gratteurs.
Voilà, ce que je disais, tu t'es pas du tout présenté, de dire par rapport aux
gratteurs. Ok. Bon, vous aurez bien compris que j'aime bien l'histoire de ma ville. En tant que bénévole, on est plusieurs à être ce qu'on appelle des gratteurs. On est au service de l'Office du tourisme. Ben parce que quand on a une passion, je crois qu'il ne faut jamais la garder pour soi. Hein, il ne faut pas être égoïste et il faut la faire partager. Et donc, la passion de notre ville, on a envie de la faire partager. Et puis voilà. Donc, si vous avez des amis qui viennent à Brest, n'hésitez pas à leur parler des gratteurs de l'Office du tourisme. Et l'Office du tourisme nous contacte. Et si on est disponible, c'est avec plaisir. Voilà, François, et on est à plusieurs. Il y a aussi.
On est spécialisé. Toi, tu es spécialisé dans les cimetières.
Voilà. Bon. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Spécialisé dans les cimetières. Peut-être pas tout à fait, mais encore que vous allez voir. On avance un petit peu plus vite. Imaginez donc qu'il y a un peu plus de 100 ans, quand Brest annexe, Saint-Martin, ce qui deviendra plus tard Saint-Michel, eh bien ici, ce n'était quasiment que des champs. En 1861, vous voyez, c'est écrit rue du Télégraphe, dénommée en 1861. Alors, à la date où la rue du Télégraphe est nommée, le Télégraphe n'existe plus. Alors, pour ceux qui creusent dans leur mémoire, qu'est-ce que c'était que le Télégraphe ? Le Télégraphe avait été mis en place par Claude Chappe. En 1791-1794, c'était un moyen révolutionnaire, je dis bien révolutionnaire, c'est le cas de le dire puisqu'il est créé sous la Révolution, pour transmettre les informations. En 1798, le télégraphe de Chappe arrive à Brest, Paris-Brest, toutes les grandes lignes, vous voyez, sont à peu près ouvertes vers cette époque-là, 1798. Ici, vous êtes à l'endroit de la dernière tour télégraphique, avant Brest, grand port de la marine, il faut qu'entre Paris, le ministère de la marine, enfin bref, le gouvernement et Brest, il y ait un lien rapide. Et donc, le télégraphe était ici. Alors les télégraphes, la particularité des tours télégraphiques, c'était qu'elles soient en hauteur. Vous avez bien compris, ici on arrive sur le replat. Hein, vous voyez, la rue ne monte quasiment plus. Un petit peu plus haut, là on est à 100 mètres de haut. Et donc ici, au milieu des champs, ça s'appelait d'ailleurs parc en télégraphe, c'est-à-dire le champ du télégraphe, eh bien il y avait ici une tourelle avec un mât, un bâton et deux antennes qui donnaient des messages. Le système était, je répète, révolutionnaire, mais il était quand même bien, il avait quelques inconvénients. Vous pensez bien que la nuit, on ne pouvait pas transmettre de télégraphe. Et puis, on sait très bien que chez nous, il ne fait pas toujours très chaud, très beau. Si, très chaud, il fait toujours. Dans nos cœurs, comme dans les gens du Nord. Hein. Mais il ne fait pas toujours très beau, ce qui fait que les jours de brouillard, l'autre antenne télégraphique, l'autre mât télégraphique, le plus proche, était à Guipava. Et il y en avait comme ça jusqu'à Paris, tous les 25 km. Alors imaginez le malheureux individu qui était dans sa tour avec ses jumelles, qui devait passer la journée depuis 7 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir, en fonction bien sûr de l'année et des saisons, qui devait regarder les jumelles du côté de Guipava. Et le dernier se trouvait, lui, alors je vous le donne en mille, où était le dernier
château.
Le château un petit peu trop bas. Pas la Tour Tanguy non plus. Non, pas la Place de la Liberté. C'était en hauteur, c'était sur l'église Saint-Louis. L'église Saint-Louis, la vieille église Saint-Louis. Si vous regardez des gravures antérieures à 1750 environ, à 1850, excusez-moi, eh bien, vous avez cette espèce de petit bâton, un bras et deux bâtons. Pour l'anecdote, le télégraphe qui partait donc de Paris à Brest mettait quelques heures dans les meilleures conditions, bien sûr, climatiques. Pensez par exemple que ce télégraphe était situé à la pointe du Mont Saint-Michel et à la pointe aussi du clocher de la cathédrale de Saint-Malo. Vous voyez, tac, 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 par des signaux. Et les signalisateurs ne savaient pas les messages qu'ils envoyaient. Seul Paris, l'émetteur, ou Brest, qui recevait le message, était capable de les décoder. Vous pensez bien qu'il y aurait eu des risques, sinon, pour que des messages importants, surtout concernant la marine et la défense, soient lus. Donc, il voyait, il regardait les messages, il les envoyait, mais sans très bien les décrypter. D'accord ? Donc voilà, ici. Mais ici, nous étions encore. Eh bien, ici, nous étions à la limite, vous voyez, de Lambé et de Brest jusqu'en 1945. Jusqu'en 1945. On continue et on va aller vers le Pilier Rouge. Donc, vous pensez bien que Brest continue de s'agrandir par Lambézélec. Et Lambézélec, ici, donc, la commune de Lambé. Et la commune de Lambé va devoir ouvrir une paroisse. Elle va devoir ouvrir une paroisse, puisque la paroisse de Saint-Michel et la paroisse de Saint-Martin sont déjà très, très bâties à ce moment-là. Ce sera donc Saint-Joseph du Pilier Rouge. L'église commence à être construite en 1899 et elle n'ouvrira qu'en 1907. Ce qui fait qu'aujourd'hui, particularité de l'église Saint-Joseph, eh bien, elle n'appartient pas à l'État. Vous savez qu'en 1905, la loi de séparation des églises et de l'État a fait que toutes les églises antérieures à 1905 appartiennent dorénavant aux municipalités. L'église de Saint-Joseph, comme il y avait des litiges dans la construction, entre 1899 et 1907, litiges, et on construit en 1907, ce qui fait que l'église est associative et gérée par une association diocésaine. Elle n'appartient pas à la municipalité. Ici, nous sommes quand même devant un... Alors, c'est un terme que je n'aime pas trop utiliser, c'est le terme mythique, car aujourd'hui, tout est devenu mythique. Mais dans tous les cas, ce celtique, là, vous voyez, cette vieille salle date quand même... C'est un des plus vieux cinémas de Brest. C'est un cinéma qui date de 1933. Pour l'époque, il avait 1100 places, vous imaginez. C'était aussi une salle de spectacle. Elle était exceptionnelle pour l'époque. Hélas, la guerre l'a détruite. En 1944, elle a été détruite, cette salle, et elle a été reconstruite en 1951. En 1951, grande salle, très grande salle. Pensez qu'ici, par exemple, Édith Piaf est venue. Pensez que Serge Lama est venu. Pensez que Johnny Hallyday y a chanté. Et les chœurs de l'Armée Rouge aussi. Par contre, la grande histoire de cette salle s'arrête en 82. Pour quelle raison ? Pour des raisons de rentabilité. Vous savez que les grands cinémas, la période à ce moment-là est révolue, des grands cinémas. La télé les a un peu fortement concurrencés. Et en 82, il est divisé en 8 salles. Mais jusqu'en 82, et les Brestois qui commencent à avoir quelques années se rappellent de cette très grande salle qu'il y avait ici, qui était très, très belle, particulièrement jolie. On avance vers plus haut. Donc, on va parler du pilier rouge. Alors, on va s'en approcher, si vous voulez, parce que c'est quand même... C'est pas une pierre porte-bonheur, mais encore que. Alors, cette petite pierre, vous voyez, n'est pas n'importe laquelle. C'est le plus vieux témoignage humain à Brest. C'est le plus vieux témoignage humain. C'est un menhir. Pour ceux d'entre vous qui ont visité les menhirs de Carnac, vous savez que tous les menhirs ne sont pas obligatoirement gigantesques, ne sont pas de taille humaine. Ici, vous avez donc un témoignage vivant de Brest. Il faut imaginer ça, bien sûr, dans un contexte bien différent au moment où il a été mis là. Mais ce sont nos ancêtres du néolithique, c'est-à-dire entre moins 5000 et moins 2000 qui l'ont élevé. Voyez, donc... Il a quand même de la chance, celui-là, de voir aujourd'hui. Il a vu toute la civilisation changer. Et il voit même le tram. Alors, c'est quand même assez formidable. Et alors, pour quelle raison le pilier rouge ? Alors, comme quelqu'un le faisait remarquer tout à l'heure, régulièrement, il est repeint en rouge par des gens du quartier. Et ici, vous voyez, on a l'impression que depuis quelque temps, il n'a pas été repeint. Alors, pour quelle raison ce pilier rouge ? Pour quelle raison ce pilier rouge ?
Parce que ça a marqué l'octroi... Le passage. Non, c'était parce que les militaires ne devaient pas sortir.
Ah, très bien. Exactement. Très bien. Donc, les permissionnaires brestois, nous sommes à peu près dans les années 1800, 1830, dans tous les cas avant l'annexion. D'accord ? donc vous gardez la tête en tête, 1861. Les militaires brestois, vous savez que Brest était une ville de marins, mais on a peut-être tendance à oublier que c'était aussi, et largement au moins autant, une ville de militaires. Je vous ai parlé tout à l'heure du génie militaire, hein, surnommé le génie malfaisant dans les années 1830 ou 1840. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de militaires à Brest, beaucoup de soldats. Et donc, quand ils venaient en permission, et surtout à partir des années, à partir du 19e siècle, où les guinguettes, les salles de bal s'étaient multipliées tout le long de la rue de Paris, hein, autour de la place de la Liberté, puis jusqu'ici. Ici, par exemple, il y avait une salle de bal qui s'appelait le Casino, très fréquentée. Eh bien, les militaires avaient le droit, jusqu'à des bornes indiquées en rouge, de déambuler librement, sans permission. S'ils sortaient de ces limites, eh bien, ils avaient obligation d'avoir une permission de l'autorité militaire. Donc, tout autour des entrées de Brest, vous aviez des piliers. Alors, c'était parfois des piliers en bois qui ont bien sûr disparu. Mais parfois, et on a de la chance, vous voyez, ce pilier rouge. Donc, vous voyez, il faut regarder ce pilier rouge avec beaucoup de tendresse, je dirais, même s'il a une forme toute tarabiscotée. Nous sommes ici à côté d'un menhir, et nous sommes ici devant une pierre qui date quand même entre moins 5000 et moins 2000, c'est-à-dire de l'époque néolithique. Bien sûr qu'on a trouvé dans le sous-sol de Brest des pierres taillées, du silex, mais tout ça, ça se trouve aujourd'hui dans les musées ou chez des particuliers. Mais là, vous voyez, elle est visible et offerte à tout le monde. Et quand l'immeuble que vous avez ici a été construit en 1938, le propriétaire a bien fait attention, vous voyez, de le respecter. Il aurait pu très bien, en 1938, être détruit et ils l'ont gardé. Alors, pour les Brestois, qu'est-ce qui est rouge encore à Brest et qui rappelle, pour la même raison qu'ici ?
La Croix-Rouge.
Exactement. La Croix-Rouge. La Croix-Rouge, hein, qui aujourd'hui est le nom d'un lycée brestois, eh bien, la Croix-Rouge, elle aussi, était peinte en rouge parce que c'était une limite à partir de laquelle les soldats avaient le droit de déambuler sans permission. Au-delà, ils étaient obligés de déambuler avec permission. Je répète, hein, ils se promenaient jusqu'ici parce que jusqu'ici, vous aviez des guinguettes, vous aviez des balles, etc. Ils avaient aussi le droit de s'amuser. Donc, vous voyez, l'autorité militaire, jusqu'à cet endroit-là, les autorisait à se promener. On va entrer maintenant donc dans le cimetière de Kerfotras. Alors je vais vous dire deux mots là sur l'origine de Kerfotras. Bien, comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est le deuxième grand cimetière de Brest, troisième, ouvert à l'extérieur, puisqu'il y a bien sûr le cimetière de Recouvrance aujourd'hui que vous connaissez, quand on monte l'ancienne côte du Grand Turc là, sur la droite, quand on sort au quai de Recouvrance, quand on monte vers Saint-Pierre. Celui-là a ouvert aussi à la même époque, bien sûr, que le cimetière de Saint-Martin. Ils étaient trop petits. En 1866, on achète ici. En fait, les premières tombes n'arrivent que vers 1881, car vous pensez bien que Lambézélec, là aussi, n'était pas très d'accord, puisqu'on était sur le territoire de la commune de Lambézélec. En 1900, on a créé un carré militaire ici. Le carré militaire que vous voyez autour de vous, et c'est là, à mes yeux, c'est pour cette raison, entre autres, que ce cimetière est intéressant, c'est qu'on a affaire à une grande zone militaire. Kerfotras, pour quelle raison ? Alors, Kerfotras, vous savez qu'il existe à Brest une rue Fautras. Ceux d'entre vous qui se sont intéressés au Vieux-Brest se rappellent qu'il y avait une caserne Fautras, hein, dont les derniers vestiges, le péristyle, se trouvent aujourd'hui sur le boulevard Jean Moulin. Quand vous circulez sur le boulevard Jean Moulin, vous avez une espèce de petit square en demi-cercle et on voit là le péristyle de la caserne Fautras. Alors, qui était ce monsieur Fautras ? Il avait une propriété ici, vous pensez bien, Ker en breton, tout lieu habité s'appelle Ker, donc Ker Fautras, la maison, le lieu dit de Fautras. Le Fautras n'était pas d'origine bretonne, il était né à Paris au début du 18e, mais c'était un major de la marine. Il avait acheté ce terrain, il lui a donné son nom. Et la caserne Fautras a porté aussi son nom, la caserne qui a disparu bien sûr pendant la guerre, grande caserne où venaient les soldats, parce que nous aurions dû avoir en 1780 une statue, en 1785 exactement, une statue de Louis XVI. Rappelez-vous, le roi Louis XVI, le malheureux qui finit le 21 janvier 1793 guillotiné, mais qui auparavant n'avait quand même pas été un si mauvais roi, surtout pour nous brestois. Rappelez-vous que la Pérouse est quand même partie de Brest le 1er août 1785, et tout le voyage a été imaginé, conçu, entre autres, par le roi. Donc, les États de Bretagne décident de construire, de bâtir une statue en l'honneur du roi Louis XVI, roi marin, un des rares rois qui s'est intéressé à la marine, que nous ayons eu. Et qui va défendre le dossier ? Il y a trois villes en concurrence, Rennes, Nantes et Brest. Eh bien, qui va défendre le dossier à Paris, à Versailles, exactement ? C'est Monsieur de Fautras. Et Monsieur de Fautras va tellement bien défendre le dossier de la construction d'une statue à Brest que pour les remercier, les Brestois donc, vont appeler la rue Fautras, que vous connaissez, même si elle n'est plus tout à fait à l'emplacement de l'ancienne. Et la grande caserne militaire portera aussi son nom pour cette raison. Et ici, donc, son terrain, la propriété, le petit manoir qu'il avait, Kerfautras. Alors ici, vous voyez, on jette un coup d'œil, là, on a à peu près 1365... Pardon.
Excusez-moi, est-ce que cette statue, elle existe ?
Oh, très bien, je ne suis pas allé jusqu'au bout de... Oui, tout à fait. Non, vous pensez bien que la Révolution est arrivée, hein, 1789, voilà. Le projet a bien sûr disparu. Tant mieux pour nous. Figurez-vous, tant mieux pour nous. Pour quelle raison ? Parce qu'il était prévu d'araser le château. Hein, cette dernière, nous sommes quand même tous brestois attachés à cette vieille forteresse hein, qui remonte dans ses plus vieilles parties à 1500 ans au moins. Eh bien, le château devait être totalement aplani, vous voyez, et à cet emplacement-là, un piédestal avec une statue gigantesque du roi. Heureusement, vous voyez que la Révolution est arrivée et le château n'a pas été rasé. Car en 1944, vous pensez bien que si elle avait été construite, cette statue aurait disparu et nous n'aurions même pas le château pour nous rappeler, pour avoir donc le plus prestigieux vestige, je dirais, du Vieux-Brest. Donc ici, vous avez le carré militaire date de 1900. Il y a 1365 tombes. 1365 tombes. Alors regardez ici, de part et d'autre. À droite et à gauche, vous voyez donc des tombes de soldats et de marins morts pendant la guerre de 14-18. Alors vous allez me dire, pour quelle raison, si loin des champs de bataille, hein, si loin des champs de bataille, Brest a autant de morts de la guerre de 14. Sur les 1365 tombes environ, il y a un peu plus de 1100 tombes, pardon, qui sont des tombes de la guerre de 14-18. Alors pour quelle raison ? Pour quelle raison nous avons un cimetière militaire de la guerre de 14 aussi important ? Vous voyez, toutes les tombes que vous voyez là, qui sont beiges, vous voyez, hein, les croix, toutes celles-là sont des tombes de... C'était des marins.
Il y avait l'hôpital maritime.
Exactement. Il y avait donc plusieurs hôpitaux, mais il y avait surtout l'hôpital maritime que vous connaissez aujourd'hui, hein, la Chia, l'hôpital des armées. Eh bien, tous les soldats et les matelots qui revenaient blessés, eh bien, étaient soignés à l'hôpital maritime. Et certains, bien sûr, sont morts. Et donc, voilà pourquoi, vous verrez, si vous jetez un petit coup d'œil, vous verrez qu'il y a des tombes de 14, de 15, de 16, parfois même de 21 ou de 22. Car ces gens-là étant dans un si triste état, restés à Brest, mais sont morts des conséquences de la guerre à Brest. Donc toutes les tombes ici sont des tombes, pour la plupart, 1100 tombes sont des tombes de soldats, de matelots, de marins morts pendant la guerre de 14-18. Mais ce cimetière, ce carré militaire est intéressant à plus d'un titre et on va donc entrer plus à l'intérieur, vous allez voir pour quelle raison. Alors, si vous êtes observateur, vous avez bien vu qu'il y a des croix chrétiennes, mais qu'il y a aussi des stèles sur lesquelles, bien sûr, on retrouve la croix chrétienne. Ce sont des aviateurs américains, anglais, britanniques, australiens, canadiens, enfin bref, tous les gens, les aviateurs de sa gracieuse majesté qui survolaient le ciel de Brest et qui, bien sûr, essayaient d'atteindre les objectifs militaires. N'oubliez pas que les Allemands sont arrivés. On a fêté récemment, on a rappelé, commémoré le 18 juin, hein, le fameux appel du général de Gaulle. N'oubliez pas que le 19 juin, les Allemands sont à Brest. D'ailleurs, je crois que c'est le 18 juin lui-même qu'Yvonne de Gaulle, sa femme et son fils Philippe quittent Brest dans une espèce de panique générale. Tous les bateaux qui peuvent prendre la mer, quittent Brest dans une panique complète. Et dès le mois de septembre, peut-être même dès le mois d'août, Brest commence à être bombardé hein, par les Anglais. Et on va s'arrêter, vous allez voir, à côté d'une tombe parce qu'elle est particulièrement remarquable. Alors, si vous jetez un coup d'œil, donc vous voyez que pour la plupart, ce sont donc des Britanniques ou ce sont des Canadiens, des Australiens, des sujets de l'Empire britannique, bien sûr, de l'époque. Si vous regardez surtout leur âge, hein, ils ont tous une vingtaine d'années. Donc, ce serait intéressant d'ailleurs de regarder les dates à laquelle ils sont morts et on verrait à partir de quand à peu près Brest commence à être bombardé. Je retiens votre attention sur cette tombe ici, vous voyez, sur Kenneth Campbell. Alors Kenneth Campbell est un pilote qui est tombé sur le ciel de Brest le 6 avril 1941. Il avait 23 ans et c'était le plus jeune fils de James Campbell, un membre de l'aristocratie écossaise. Et si vous regardez bien, vous aurez vu qu'ici, à l'inverse des autres tombes où il n'y a qu'une simple croix, il y a cette superbe médaille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le ciel de Brest le 6 avril 1941 ? Quelques jours plus tôt, à la fin du mois de mars, à partir du mois de mars 1944, les grands croiseurs allemands, le Gneisenau, le Scharnhorst, sont au large de l'Atlantique. C'est, vous savez, la fameuse bataille de l'Atlantique. En un mois, en mars 1941, ils ont coulé, à eux deux, le Scharnhorst et le Gneisenau, ils ont coulé le premier 14 navires qui ravitaillaient l'Angleterre, le second 8. En cumulant les tonnes de denrées qui ont fini, ça fait 115 000 tonnes de denrées qui ravitaillent l'Angleterre qui ont fini au fond de l'eau. Ces bateaux viennent se mettre à l'abri à Brest. Vous pensez bien, hein, c'est pas pour rien que les Allemands ont choisi Brest, c'est parce que c'était stratégiquement extrêmement intéressant pour la bataille de l'Atlantique juste à quelques encablures de l'Angleterre. À ce moment-là, le 22 mars, dès que les Anglais savent par la résistance française que le Scharnhorst et le Gneisenau sont à Brest, dans le port de Brest, ils vont organiser le bombardement. Donc des bombardiers qui contiennent des torpilles vont survoler le ciel de Brest. Ils ont souvent survolé le ciel de Brest, mais je vais vous raconter en particulier ce qui s'est passé ce 6 avril. Ce jeune Campbell, qui était d'un courage assez exceptionnel, donc c'était trois bombardiers. Ils ont survolé le ciel de Brest. N'oubliez pas que Brest avait une défense anti-aérienne, une FLAC, qui était quasiment comparable, c'est du moins ce que j'ai lu maintenant à vérifier, à celle de Berlin. Donc vous imaginez des DCA tout autour de Brest, à l'intérieur de Brest, au sud de Brest, etc., qui attendent ces avions. Ces avions qui survolent le ciel de Brest de jour, ils vont réussir à survoler le ciel de Brest très très haut. Parce que pour éviter justement la défense antiaérienne allemande, il fallait être à 5000 mètres d'altitude au moins pour éviter. Ils réussissent à arriver sur la rade. Arrivés sur la rade, les bateaux, les avions se retournent et piquent sur le port. Hein, le Scharnhorst et le Gneisenau étaient à peu près à l'Aninon, vous voyez, hein, du côté de Recouvrance. Là. Ils savent qu'ils vont mourir. Ils ont déjà échappé tant bien que mal à la DCA. Ils savent qu'ils vont mourir. Ils piquent à quelques mètres au-dessus du Scharnhorst et du Gneisenau et ils lancent leur torpille. La torpille atteint le Gneisenau. Il va être abîmé sous la ligne de flottaison sur plusieurs mètres. À ce moment-là, bien sûr, l'avion est abattu et le pilote et ses coéquipiers meurent. Les Allemands leur ont rendu hommage ici. Les Allemands ont rendu un hommage militaire à ces jeunes hommes qui venaient de mourir pour leur bravoure. Quand par la résistance française, le gouvernement britannique a appris ce qui s'était passé et l'acte de bravoure, ce jeune homme, vous voyez, a reçu Victory Cross, c'est-à-dire la croix de la reine Victoria. C'est une décoration militaire la plus prestigieuse qui existe. Elle est remise à n'importe quel individu qui a défendu le Royaume-Uni et qui par un acte de bravoure assez exceptionnel. Et elle fait fi, si vous voulez, des différences sociales. Elle peut être remise à un simple soldat comme elle peut être remise à un général ou à un amiral. Et donc, ce jeune homme a reçu cette Victory Cross. Donc, vous voyez, je crois que c'est le seul dans le cimetière de Kerfotras. Si vous regardez bien, par exemple, est mort avec lui, donc le 6 avril 1941, on aperçoit ici un certain Scott qui est mort avec lui aussi le 6 avril 1941. Vous voyez, Air Observer. On voit ici, celui-ci est mort avec lui, est mort en même temps que lui. Bon, certains corps ont été bien sûr rapatriés en Angleterre, mais pas tous. Et
il n'a pas la croix, lui.
Non, lui n'a pas, donc il ne commandait pas l'avion, donc il est moins mort. Hein, il est moins mort. Maintenant, si vous regardez aussi, beaucoup de tombes, beaucoup de d'aviateurs sont tombés le 24 juillet 1941. 24 juillet 41, ici, voilà, 24 juillet 41, vous en aurez plusieurs, 24 juillet. Alors ce jour-là, Brest a subi un des bombardements les plus exceptionnels de son histoire, 100 bombardiers ont survécu. survolé le ciel de Brest. Sans bombardier, on lâchait leurs bombes, donc ils les lâchaient très haut, comme je vous l'ai dit, pour éviter la flak, hein, la défense anti-aérienne. Il y a eu 80 morts à Brest, et environ 50 immeubles ont été détruits, et plusieurs autres, bien sûr, ont été fissurés. 83 aviateurs anglais sont tombés, ont été faits prisonniers, ou sont morts. Donc vous voyez, là aussi, on leur a rendu un hommage à ce moment-là. Alors pour parler de la ville de Brest, nous aurions pu développer, nous à Brest, nous aurions pu développer un sentiment d'anglophobie. C'est vrai que les Anglais attendaient les soirs de pleine lune, vous savez, pour venir nous bombarder. Bien sûr, les objectifs n'étaient pas les civils, c'était le port, c'était la Pinfel et c'était le port de guerre. Mais vous imaginez qu'un avion, à l'époque, hein, avec les moyens techniques de l'époque, survolant une ville à plus de 5000 mètres de hauteur, lâchait ses bombes un peu au hasard. Et souvent, c'était les immeubles qui s'écroulaient, souvent, c'était les immeubles qui s'effondraient, et il y avait souvent des morts. Jamais, jamais, il n'y a eu de sentiment d'anglophobie à Brest. On savait qu'on mourait sous les bombes pour la liberté. Hein, et donc, c'est pas pour rien que Brest a été faite a été médaillée de la résistance. Hein, Brest est une des 17 villes de France médaillées de la résistance. On va continuer un petit peu, car j'ai autre chose à vous montrer de l'autre côté.
S'il vous plaît, je peux ajouter
Je vous en prie.
Que justement, le Victoria Cross est toujours utilisé.
Est toujours, toujours active.
Actuellement, d'accord. Afghanistan ou Irak.
D'accord, oui. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas comme l'ordre de la jarretière ou un ordre, c'est une distinction. Mais c'est la plus. Et c'est la plus grande des distinctions qui date de 1855-56, date à pendant la guerre de Crimée. Hein, c'est la reine Victoria qui avait décidé de la créer. On va aller un petit peu plus loin. Alors regardez, si vous regardez ici, il y a une chose. Vous avez remarqué que toutes les croix, ça c'est juste de la symbolique, hein, mais vous avez remarqué que toutes les croix, les corps sont vers l'est ou vers l'ouest ? Alors la tête des corps est vers l'est. Hein, vers l'est. C'est la symbolique, vous savez bien, c'est la résurrection. Hein, les corps se lèveront, etc. Ça, c'est de la symbolique chrétienne. Regardez toutes les tombes. Mais si vous regardez bien, il y a là-bas des tombes musulmanes. Hein, vous voyez de nombreuses stèles qui ont une forme, vous voyez, comme un bulbe, là, vous voyez. Voilà, il y en a. Alors, ce qui est assez amusant à Carfotras, c'est que celles-ci, vous voyez, ont été mises comme des tombes chrétiennes, disposées comme des tombes chrétiennes, alors que celles-là, effectivement, regardez, elles ne sont pas disposées dans le même sens. Vous voyez, elles ressemblent à un bulbe. Voilà, exactement. Elles sont toutes, elles, tournées vers la Mecque. Hein ? Tous les musulmans, quand ils sont enterrés, ou qu'ils soient enterrés, hein, sont enterrés donc en direction de la Mecque, alors que les chrétiens sont toujours enterrés. Donc voilà, vers l'est, hein, vers le soleil levant, la résurrection.
C'est le même phénomène qu'il y a dans le carré musulman là-bas.
C'est exactement.
Vous avez les tombes qui sont dirigées différemment.
Qui sont dirigées différemment, donc vers la Mecque. Et ici, vous avez le carré allemand. Vous voyez, nous avons aussi un carré allemand. Il y a environ 150 Allemands qui sont enterrés ici. On remarque leurs tombes, vous voyez, elles sont plus foncées que les autres. Et ce sont bien sûr des prisonniers. Ce sont des prisonniers de guerre qui sont morts à l'hôpital, qui sont morts pendant leur captivité ou qui sont morts aussi à l'hôpital maritime. Vous voyez, pendant la guerre de 14-18, oui.